Les 11 salaires et demi que vous sortez, là, ce sont des salaires qui sont, enfin, qui permettent de vivre, qui sont corrects. Qui...
Donc en agriculture, en première année d'installation, il ne faut pas se leurrer, on ne sort pas de salaire. Donc aujourd'hui, on est. C'est vrai que je voulais commencer mon intervention par ça. On est une expérimentation qui est pas encore. On ne peut pas dire qu'elle est viable parce qu'on pourra dire si elle est viable ou non dans 3-4 ans. Quoi.
Il faut du recul, c'est
sûr. Donc, il nous faut forcément du recul. Pour l'instant, d'après nos prévisionnels économiques, on est à l'heure. Quand on s'est installé avec les aides, donc les DJA, les dotations aux jeunes agriculteurs, et ça nous impose de sortir un SMIC au bout de 4 ans. Donc voilà, notre objectif, c'est le SMIC au bout de 4 ans.
10 SMIC au bout de 4 ans.
10,5
SMIC. D'accord. C'est quoi une AMAC ?
Une AMAC,
c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est un groupement de consommateurs, une association de consommateurs qui se regroupe pour mieux consommer et du coup qui fait appel à des paysans pour fournir c'est souvent sous la forme de paniers hebdomadaires donc par exemple nous comme c'est des étudiants c'est des paniers très très peu chers donc il y a 6 euros, 10 euros, 15 euros et 20 euros et du coup les gens s'inscrivent, ils payent en avance leur panier, ce qui nous permet à nous d'avoir une trésorerie en avance et on ramène du coup les 50 paniers tous les mardis soirs à la fac et eux prennent leur panier. C'est assez pratique pour le paysan. Bah c'est du coup nous on regarde ce qu'il y a dans notre jardin, on récolte ce qui est à maturité et ce qui peut partir. Contrairement à un marché où là vraiment on sait que il faut avoir tant de choses et tant de choses pour que... Enfin, voilà. Ça facilite pas mal de choses.
Je voulais juste terminer sur... Enfin, apporter des compléments sur le map. L'intérêt pour, effectivement, comme vient de le dire Thomas, c'est que l'agriculteur, il a une manière d'écouler sa production. Ça impose pour le consommateur de manger des produits de saison. C'est-à-dire que non, on n'achète pas dans une AMAP des tomates au mois de janvier. Ça impose pour le consommateur aussi de préparer un peu quand même plus ou moins ses menus à l'avance et d'organiser la manière dont il va se nourrir sur la base de ce qu'il a acheté. Et je cite ça, non pas pour détourner tous les gens qui sont là des AMAP, mais peut-être pour souligner aussi que dans tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, que ce soit sur les énergies renouvelables ou sous l'agriculture, ou sur l'agriculture, il y a un autre mode de vie et de consommation dont on aperçoit qu'elle est obligatoire. Voilà. Alors après, il faut se questionner. Si on veut continuer à manger des tomates au mois de décembre, ça a un coût pour la planète. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt gustatif, mais voilà. Donc, mais après, vous aurez compris que je me fournis dans une AMAP. Enfin, au bio d'ici, mais c'est le même système qu'une AMAP. Mais je pense que toute la journée, quand même, on aura en filigrane le fait que, oui, répondre aux défis du climat, aux défis de l'agriculture... oui, ça va quand même demander des changements de manière de vivre.
Pour compléter, c'est peut-être revenir au bon sens qu'avaient les anciens, qui était de manger ce qu'il y a. Et quand on va dans une grande surface, qu'on a le choix entre 10 variétés de pommes, ben je dirais, c'est peut-être aussi manger des pommes au fur et à mesure qu'elles mûrissent. Il y a des pommes qui se conservent pour longtemps et qu'on va manger en dernier, quoi. Enfin, alors après, on mangera peut-être la même chose, mais pas au même moment. Ouais. Et on n'est plus dans le caprice de dire, je suis devant 50 ou 100 légumes et je choisis celui-là. On n'est plus dans... C'est le bon sens qui revient, je crois.
Je vois par rapport à ma commune, par exemple, et ce qui m'a interpellé, c'est de dire qu'effectivement, il y a, je ne me souviens plus comment tu as dit, le pourcentage... des paysans qui vont s'en aller. Et tous ceux que je connais, moi, c'est pourtant une petite commune. Soit ils ont pris leur retraite, ils n'ont pas de descendants, soit les descendants, ça ne les intéresse pas. Enfin, bref, c'est pourtant un petit périmètre. Mais la question que je me posais, c'était comment, quels sont les obstacles, quels sont les freins, quels sont les trucs à les obstacles à franchir pour arriver à justement construire au sein d'une commune ce système, quoi, parce que ça, si ça n'existe pas, c'est pas que, enfin si ça n'existe pas, plus pour moi, hein, plus je sais pas si répandu que ça, c'est parce qu'il doit y avoir quand même des obstructions, des freins, des dans le système, quoi, je veux dire, pour mettre en place un tel truc, quoi. Et comment on fait, quoi, grosso modo. Moi, ça ne m'intéresse pas personnellement. Non,
on va peut-être comment laisser filer les questions.
Plusieurs questions.
Plusieurs questions et on répond.
C'était pas une question, je voulais continuer à rebondir un petit peu sur la map, parce que je suis aussi utilisateur d'AMAP, et je voulais juste souligner, effectivement, monsieur a tout à fait raison, ça permet de reprendre de conscience du bon sens et de voir les produits... Enfin, de prendre conscience du temps et des produits qu'on doit consommer, ce qui pousse en ce moment, etc. Ça demande quelques efforts du consommateur, mais c'est très riche. C'est très riche pour... C'est vrai que pour l'agriculteur, ça permet une certaine planification et une aide, et c'est ça aussi qui est bien pour le consommateur, je pense. Parce qu'on dialogue avec les agriculteurs. Enfin, nous, dans notre AMAP, on soit toutes les semaines, on discute de ce qu'ils préparent, des choses, et on prend chacun conscience des problématiques, et pour moi, ça fait part, en plus de tout ça, c'est un soutien à l'économie locale aussi, quelque part. Alors, c'est modeste, évidemment, mais ça compte, parce que, comme tu le disais, Elisabeth, dans les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, de toute façon, tout compte, il faut qu'on prenne conscience qu'on a des choses à changer, les consommateurs ont des choses à changer, les producteurs ont probablement des choses à changer, la société a des choses à changer, il faut que tout le monde participe pour essayer de tirer dans le bon sens, enfin, dans le sens qu'on considère, en tout cas, comme celui dans lequel il faut qu'on aille.
Voilà, donc on a la question sur les obstacles, on a aussi une question par là. On va prendre plusieurs questions. Oui, vas-y.
Oui, non, c'est quatre. C'est moi.
Vas-y.
C'est 80 hectares, c'est ça à peu près, ou...
84 ou 83.
Vous avez trouvé ça d'un seul tenant, ou qu'est-ce qui a motivé le choix de cet emplacement-là?
Donc on a mis un an et demi pour trouver la ferme. C'est surtout le choix technique. Hein. Donc, il nous fallait 80 hectares avec la moitié labourable et avec des bâtiments. Des bâtiments d'élevage et des bâtiments pour accueillir nos transformations. Du coup, cette ferme, elle convenait vraiment bien à notre projet.
Prospecter dans toute la France.
On a cherché dans le Limousin en priorité. Après nos études, on a travaillé tous un peu partout autour de la France, et au bout d'un moment, on a tous quitté nos boulots et on s'est tous réunis en Limousin. Et donc on a fait une colocation pendant un an et demi, où là on a cherché la ferme, on a chiffré le projet, on a dimensionné les ateliers, on avait tout en microscopique. En fait, on a fait une sorte de pépinière d'entreprise, de pépinière de ferme un peu avant. Donc on avait un grand jardin, on avait un four à pain, une microbrasserie, des chèvres, des cochons, etc. Ça nous a permis d'apprendre à travailler ensemble, etc. Et du coup, le Limousin, pourquoi le Limousin? Parce que j'imagine que c'est une question aussi. On cherchait pas forcément à s'installer dans une région hyper dynamique dans l'agriculture alternative comme Rhône-Alpes ou Bretagne, etc. On avait envie d'aller quelque part où on sentait qu'il y avait des choses qui allaient se faire et qui n'avaient pas encore démarré, quoi, pour participer un peu à un élan. L'une de mes collègues travaillait en Limousin et c'est une région assez centrale, du coup on s'est souvent retrouvé à se réunir en Limousin et ça nous a beaucoup plu. On a rencontré du monde, on a fait un petit réseau assez rapidement, et on s'y plaît bien, c'est beau et c'est très accueillant.
Alors, je voulais juste faire une remarque et poser une question sur votre initiative. La remarque, c'est que il y a beaucoup d'AMAP aussi qui donnent des recettes, qui partagent des recettes avec les gens de façon à retrouver un certain goût de la cuisine, à redécouvrir des saveurs, notamment quand il y a un retour vers des légumes oubliés, qui peuvent être intéressants. Bon, et la question, c'est, avec Naïve, c'est si vous ne dégagez pas de salaire, concrètement, vous vivez de quoi?
Bah, c'est quand même, mais bon. Non, mais c'est
bien sans dette.
Voilà, c'est ça.
Sans dette.
Oui, tu avais aussi une question.
Alors, moi, j'avais une question. Oui, moi, j'avais une question sur. Alors, je ne sais pas après comment tu peux organiser tes réponses par rapport à ce qui a été soulevé, mais c'était une question.
Quels sont les obstacles de Jean-Marie aussi, encore.
Alors, voilà, il y avait, oui, mais les obstacles de Jean-Marie, si tu veux bien, Jean-Marie, je pense que ça va plutôt coller sur la deuxième partie, puisque c'est toute la partie sur. L'accession au foncier, bon, qui a été abordée là, mais qu'on va essayer de regrouper quand même un petit peu dans la partie. Alors, donc, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était, je trouve très intéressant, le fait qu'effectivement, vous soyez 10 ou 11, ou 10 et demi, on va dire, mais et t'as expliqué un petit peu en quoi ça facilitait des choses par rapport au mode de vie, au mode de fonctionnement, au travail, mais ça pose quand même la question de la gouvernance. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que vous avez mis en place pour prendre les décisions, pour trancher sur telle ou telle décision, que ce soit sur du quotidien ou que ce soit sur des projets, des perspectives, des choses à développer.
On va peut-être les
Alors, j'ai bien compris que ce n'était pas communautaire.
Thomas répondra à ces deux questions-là avant d'en prendre deux autres.
J'en vois
quatre autres. Mais déjà, ces deux-là, de quoi vous vivez? Bon, apparemment, vous vous nourrissez déjà, c'est déjà ça. Deux, comment vous prenez les décisions, etc.
Pour la rémunération, pour l'instant, on a fait des emprunts qui nous permettent d'avoir de la trésorerie, qui nous permettent de nous rémunérer. À partir normalement de décembre, dans le prévisionnel, on ne s'endette plus pour se rémunérer. Grosso modo. Pour ce qui est de la gouvernance, on est une société agricole qui est le GAEC. On a chacun le même nombre de parts, donc on a la même rémunération, le même co-décisionnel. Et pour ce qui est des décisions, donc chacun des ateliers a des référents. Par exemple, on est 3,5 en maraîchage. La plupart des décisions techniques, c'est nous qui les prenons à 3. Quoi. Après, on s'est toujours dit, dès qu'il y a une décision qui relève de l'ordre éthique ou d'un investissement important, on en fait part aux autres membres du GAEC. Après, pour l'organisation, on a un fonctionnement... on fait une réunion tous les lundis matins qui dure toute la matinée et qui déborde souvent sur l'après-midi, où là, on règle toutes les questions de la ferme. Donc, nous, c'est un peu particulier parce que on vit également ensemble. Donc, il y a des problèmes, des questions privées et professionnelles. Donc, c'est une réunion qui mixe un peu tout ça. Toutes les décisions sont prises à l'unanimité, quoi. Donc ça engendre des débats assez longs, mais importants, parce que il n'y a que comme ça, pour moi, qu'un groupe peut fonctionner. C'est en faisant beaucoup de discussions pour comprendre l'autre, échanger, etc.
Non, je n'interviens pas. Il y a d'autres questions.
Juste une précision, tu poses le GAEC comme ça, comme type de structure, mais pourquoi pas une SCOP, ou est-ce que vous avez envisagé d'autres types de montage possibles, et pourquoi le choix du GAEC?
Le GAEC, ça nous permettait d'avoir cette gouvernance équitable, et en même temps, en agriculture, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir ce statut-là des raisons financières.
D'accord.
Des raisons de subventionnement.
Fiscales.
Fiscales.
Vous avez un peu en partie répondu à la question que vous nous posez dès le départ, qui était la question de la conception du travail, d'une façon générale. Et donc, dans cette conception, on va dire, ça peut faire penser, avec beaucoup de guillemets, aux soft causes mais écologiques, où effectivement on n'est plus dans la division du travail capitaliste, on est dans une autre conception. Donc, il renvoie à ce que disait Elisabeth sur une autre conception d'un mode de vie. Et c'est la raison pour laquelle je réfute le terme gouvernance, parce que le terme gouvernance, ça s'applique au capitalisme, hein, il faut savoir ce qu'on veut.
La sémantique a sa place dans ce débat.
Cette conception du travail renvoie effectivement, doit nous faire réfléchir sur vraiment comment nous voulons vivre. Parce qu'il ne s'agit pas de, effectivement, d'être toujours en train de penser en termes de combien ça rapporte, combien on va vendre la pomme. Il s'agit aussi de penser, effectivement, quand on va au supermarché, il n'y a pas 10 variétés de pommes, c'est pas vrai, il y en a 3. Hein. On veut effectivement protéger, je ne sais pas, il y en a 350 ou 3000, je ne sais plus combien, de variétés de pommes. Donc, dans quel type de société on veut vivre? Je crois que là, on a chacun, effectivement, à vraiment s'investir sur le plan de la réflexion, sur le plan de l'action. Et c'est vrai que ça pose quand même beaucoup de problèmes, et je crois qu'on n'en a pas fini.
Non.
À quoi, moi, la question que je pose, à quoi, jusqu'où est-on capable, nous-mêmes, de transformer notre mode de vie? Chacun. Ne pas tomber dans les pièges de la constocratie.
Une autre question par là et une par là, et puis on tentera d'avancer.
Moi, c'est au niveau des obstacles, mais qui n'ont pas trait à foncer. Dans les obstacles, il y a d'une part, je pense, les obligations légales par rapport à la culture bio, etc., qui doivent être des contraintes assez puissantes. D'autre part, il y a les coûts. On entend souvent que les producteurs bio ont des coûts importants pour satisfaire à la labellisation. Donc, par rapport à ça, j'aimerais avoir un éclairage. Et puis, il y a aussi l'éclairage par rapport à ce qui existe majoritairement, c'est-à-dire l'agroalimentaire et ses résistances par rapport à ce type d'organisation en agriculture qui pose des problèmes non seulement pour les consommateurs, mais qui permet de structurer la société différemment et qui n'est pas forcément dans les avantages voulus par l'agroalimentaire, bien entendu.
D'accord. Et il y avait deux autres, et après, Jean-Marc, pardon.
Alors moi, c'est une question très simple, mais très importante. Quel est votre DHT?
Ça veut dire
durée hebdomadaire de travail.
D'accord. Alors la durée de... Et puis... Oui.
Alors, j'ai un petit témoignage et une question. Il se trouve que je suis Limoges, donc je suis à Limoges, département de la Haute-Vienne, département rural, donc Thomas l'a dit, il y a beaucoup de paysans qui ont abandonné leur ferme. Et j'ai envie de dire, leur expérience nous fait un bien fou. Ce qui a été dit au début, à savoir donner à voir que ça peut marcher, que c'est enthousiasmant, que c'est porteur, que c'est possible. Et moi, je ne suis pas du tout agricultrice, hein, je suis prof. Mais ce qu'ils font nous fait vraiment un bien extraordinaire, ça nous file la pêche. Ça se voit, ils ont fait une porte ouverte qui a reçu un accueil extraordinaire. Il n'en a pas parlé, Thomas, mais il y a eu énormément de monde. Le mardi soir à la ferme, moi, il se trouve que j'y suis allée, il y a un monde, il y a vraiment du monde qui vient. Et sur le marché à Marseille, le grand marché de Limoges où ils viennent le samedi matin, d'ailleurs, ce matin, j'hésitais entre venir ici et en revenir sur le marché et voir. Mais en plus, ils ont choisi quelque chose sur le marché de Marceau. Il y a un petit coin bio qui est très, j'ai envie de dire, de l'entre-soi. Eux, ils ne sont pas sur ce petit coin bio. Ils sont au milieu du marché. C'est-à-dire qu'ils sont au milieu de tout le monde. Et il y a du monde qui vient les voir. Enfin, ils commencent à avoir des gens qui viennent et qui régulièrement... Ça fait du bien, ce genre de choses, parce que c'est possible. Et ça, vraiment, nous, on les remercie énormément de ça, parce que ça va exactement dans le sens de ce qui était dit en introduction de ce que tu as dit, en disant on a besoin de choses concrètes, et voir des jeunes dans un département, un département rural, des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui s'installent, ça fonctionne, ça fait du bien. La question, c'est sur, la question à Thomas, c'est sur les étudiants, puisque si j'ai bien compris ça, vous l'avez fait juste à cette rentrée. Et ça m'intéresse. Comment ils ont réagi? Comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce que ça prend auprès de quoi la main?
Alors on a, Thomas, on a comment les étudiants ont réagi? Combien d'heures de travail vous avez par semaine? Toi, c'était les rapports un peu avec les autres agriculteurs. Non, c'est
avec l'agroalimentaire.
Avec l'agroalimentaire. Et ce que tu nous posais comme question, c'est plus une question que tu poses à nous tous. Que tu poses à nous tous, c'est jusqu'où on est capable de transformer nos habitudes pour que ce qu'on appelle de nos voeux une agriculture paysanne qui permette à des gens de vivre, et si c'est des jeunes, c'est encore mieux, puisse continuer à se développer. Tu la poses à nous tous. Un, qu'est-ce qu'on est capable d'accepter? Et moi, j'en ajoute une, si tu permets. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour convaincre les autres? Je te passe la parole.
Par rapport à ça, enfin, je voulais revenir aussi sur la map. Pour moi, ce n'est pas forcément le système révolutionnaire qui va tout... Je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui s'installent et pour les soutenir, etc. Mais je pense qu'il y a un effort aussi à faire des producteurs pour trouver d'autres moyens de commercialiser. Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui sont en AMAP. Sauf que maintenant, il faut toucher les autres consommateurs, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'au départ, on ne voulait pas faire d'AMAP. Mais voilà, on a été contacté par les étudiants et du coup, ça nous allait très bien. Mais je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Voilà, la vente par Internet, ça me semble quelque chose de plutôt intéressant. Nous, on compte monter un site avec commande par Internet et livraison sur un point fixe sur Limoges et Saint-Thierry. Du coup, les gens peuvent choisir leurs produits. C'est vrai que la contrainte de la map, y a peu de gens qui sont prêts à avoir un panier hebdomadaire... sans choisir leurs légumes, etc., leur imposer ça. Voilà, si on veut vraiment que ça se développe, je pense qu'il faut aussi que les producteurs fassent un peu d'effort. Pour ce qui est par rapport à l'agroalimentaire, nous, on est en totalité en circuit court, donc on est totalement détaché des prix du marché, etc. Et à mon sens, c'est un peu la solution de l'agriculture française aujourd'hui, c'est produire moins, se réapproprier les moyens de commercialisation, la revalorisation de la transformation du produit, et puis c'est ce qui, enfin, moi je trouve que du coup notre production est très intéressante parce qu'on est très diversifié voilà. Par rapport au label. Les contraintes bio, moi je trouve pas que c'est des contraintes en fait. On s'est installé en bio, ça nous paraissait juste logique de pas utiliser d'engrais chimiques, de pesticides, etc. Et puis c'est juste une autre manière de réfléchir. Donc c'est des techniques plus complexes parce que donc on a des techniques de travail du sol plus complexes pour l'enherbement. On a aussi des produits en bio, on a aussi des techniques de lutte biologique contre les insectes, etc. Moi, je prends la bio, je la prends pas comme une contrainte, sauf quand on doit acheter quelque chose à l'extérieur, par exemple des minéraux pour les animaux, et là on se retrouve confronté au prix qui est 5 fois supérieur à celui du conventionnel, alors que c'est pas forcément quelque chose de différent. Le coût du label, nous on a été plutôt agréablement surpris sur le coût du label parce que on est une exploitation qui produit énormément de choses. Du coup, notre coût de la certification n'est pas énorme. Pour des exploitations seules, c'est différent, je pense. Et je pense que le coût par rapport à la production est plus important. Donc là-dessus, je peux pas trop. Pas trop développer. Par rapport à la durée de travail, donc on a mis des horaires pour parce que on s'est dit que c'était important qu'il n'y en ait pas qui travaillent beaucoup plus que d'autres. Forcément, on dépasse de ces horaires le matin et le soir, de temps en temps, enfin la plupart du temps même. Mais voilà, c'est important d'avoir ce cadre-là pour dire que donc à ces horaires on travaille et puis le reste on ne travaille pas, on travaille. Donc on commence à 8 heures, donc c'est plutôt tard pour les agriculteurs, et on finit à 18 heures.
C'est cool. Ah, c'est moins qu'amère, hein, moi ce que je veux dire.
C'est sur le papier.
C'est, après, c'est sur le papier,
après,
c'est sûr, mais...
Voilà.
De travail,
et on travaille du lundi au samedi.
Jean-Gabriel ?
J'ai une question sur le mi-temps. C'est ce que je trouve intéressant, c'est enfin, ce qui m'a accroché en particulier, c'est l'architecte charpentier, ce qui veut dire que vous construisez vos bâtiments de ferme, voire vos bâtiments d'habitation. Et est-ce que aussi, il n'y a pas une part d'invention, essayer de trouver des choses peut-être encore plus adaptées à ce type d'agriculture, ou au confort des animaux, ou à des questions d'isolation, enfin, dans cette espèce de, si j'en prends le terme, sauf cause.
Je réponds juste, il manquait une question par rapport aux étudiants. Les étudiants, ben, ça se passe bien. Non, il y a... on a 50 paniers et on a la moitié d'étudiants et de personnes de la vie scolaire. Donc c'est intéressant, du coup on a des profs, des gens comme ça. Donc là on a fait que deux distributions, voilà, les gens sont contents, on donne des légumes. Et ils sont très motivés pour aussi faire des chantiers participatifs sur la ferme, pour faire des visites, etc. Et, donc voilà, nous ça... Ça nous semble important parce que c'est aussi des étudiants, c'est des futurs adultes, etc. Et c'est maintenant qu'ils apprennent à consommer aussi, quoi. Après,
Pad, tu avais une question.
Oui, j'avais une question sur le relationnel que vous avez avec les autres agriculteurs, largement, hein, aussi bien est-ce que vous êtes en relation avec d'autres agriculteurs bio. Comment ça se passe avec les agriculteurs conventionnels autour de vous? Comme vous participez aussi à des marchés, etc., donc vous faites de la vente par rapport à d'autres marchands. Enfin, quel est le relationnel? Comment se passe l'intégration globale dans le monde agricole où vous êtes un petit peu alternatif, bien sûr. C'est très intéressant. Votre...
Bah, si vous êtes
magnifique,
venir.
Non,
par rapport à l'architecte, je reviens sur la question d'avant. Du coup, c'est un plus énorme qu'on a d'avoir un architecte charpentier parce qu'il a dessiné tous les bâtiments d'exploitation. Donc il a inventé. Donc c'était à chaque fois en collaboration avec les éleveuses, avec le brasseur, le boulanger, etc. Et du coup, on aménage tous nos bâtiments avec des matériaux écologiques. Donc on a fait une fromagerie en ossature bois, mur paille, etc. Pareil pour le fournil et compagnie. Et c'est hyper intéressant parce que lui, il voit l'agencement qu'il faut pour pouvoir passer à tel endroit, etc. Et il a aussi le goût de l'esthétique, quoi. Donc, c'est, mine de rien, c'est important qu'on ait une ferme qui commence à être assez belle. Et ce qui est assez, à nos yeux, assez important parce que c'est aussi notre lieu de vie, etc. Par rapport aux relations avec les autres agriculteurs, on a beaucoup de relations avec les autres paysans alternatifs, que ce soit sur les marchés, on est aussi syndiqué à la Confédération Paysanne, on est dans des associations comme l'Ardéar et compagnie, donc on a beaucoup de liens avec les autres agriculteurs bio ou même non bio en agriculture paysanne. Et ce qui est des autres conventionnels, c'est plus les voisins, quoi. Nos voisins, on s'entend plutôt bien. Par exemple, nos foins, ils ont été faits par un agriculteur voisin avec qui on s'entend bien, qui a pris la moitié de nos foins. On demande des conseils par rapport aux semis, parce que voilà, au niveau technique, on a une formation d'ingénieur, mais c'est pas technique, l'ingénieur. Se retrouver dans un tracteur avec un semoir derrière, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, on a beaucoup d'aide des voisins qui sont, je pense, contents de nous aider.
Oui.
Oui, alors je voudrais apporter une note d'humour, parce qu'on parle d'invention. Je voulais savoir si vous avez été inspiré par ces viticulteurs du Jura, je crois, qui ont inventé un vin qu'ils ont appelé la France insoumise. Alors, pourquoi pas
Limousin
insoumis,
si j'ai bien compris tout ce que nous a dit Thomas, leur envie de créer une ferme à 11 et de travailler autrement, et ça rejoint ce que j'ai dit en introduction, hein, leur est arrivé dans la tête bien avant que le slogan de la France insoumise soit sorti. Et c'est ça que je trouve, c'est ce que je disais tout à l'heure, les règles vertes qu'on souhaite, elles auront une chance d'exister et d'être partagées massivement que quand on mettra, que quand les gens s'en saisissent, même sans savoir qu'il y a un parti qui a une règle verte, et font. Voilà. Et là, c'est vrai, je te rejoins, Daniel, on a un magnifique... Enfin, tu dis que ça vous fait du bien en Limousin, moi ça me fait du bien même ce matin, de les entendre dire qu'ils inventent une ferme, que... Voilà. Je pense que c'est ça, en fait. Et tu as dit quand même tout à l'heure, et ça rejoint un peu la remarque de notre camarade, que vous aviez eu envie de vous installer en Limousin, plutôt dans un endroit où il n'y avait pas encore beaucoup d'alternatives, pour être moteur d'un mouvement alternatif.
Oui, en fait, là où on travaillait avant, c'était plus... on a beaucoup visité de fermes collectives avant, que ce soit en Bretagne, en Ardèche et compagnie. On a trouvé ça bien, mais ça correspondait. On trouvait que c'était vraiment de l'entre-soi, quoi. Que c'est pas ce qui est important, c'est aussi de montrer que ça peut fonctionner à tout le monde.
Encore deux questions.
Juste pour continuer là, juste sur ce que tu viens de dire, est-ce que vous avez déjà commencé ou est-ce que vous projetez de partager votre expérience ailleurs qu'en Limousin, c'est-à-dire est-ce que vous prévoyez d'avoir une vitrine, quelque chose sur les réseaux sociaux, sur Internet, pour éventuellement inspirer d'autres gens? Enfin, vous voyez le genre de choses, enfin, tu vois le genre de choses auxquelles je pense. Est-ce que c'est prévu ou est-ce que vous avez déjà commencé?
Attends. Alors, moi, ce que je propose là, voilà. Juste, c'est on a Marcel, Jean-Louis, et puis on va peut-être.
Juste une toute petite.
On a toute la journée ensemble. Hein.
Jean-Michel, et juste après, pour l'organisation des débats, et pas trop, on fait une petite pause pour que ceux qui viennent d'arriver puissent prendre un petit café de 10 minutes. Et puis après, on passera à la deuxième partie. De toute façon, les questions
vont se croiser
au fur et à mesure de la journée.
Marcel.
Toute courte ma question. Vas-y. Vous dites que vous êtes ingénieur et que vous avez travaillé avant de... Vous avez travaillé dans l'agriculture ou vous avez été travailler dans des exploitations ou vous avez travaillé ailleurs?
Un peu des deux. On a été ouvrier agricole et après c'était surtout dans le tissu associatif alternatif, quoi. Moi j'étais à la Confédération paysanne, il y avait l'Ardéa, il y avait Manger Bio, il y avait Solidarité Paysan. Les GAB, enfin voilà, c'est des structures qui sont un peu. Ça nous a permis d'avoir de faire une connaissance avec. Et avoir pas mal d'expériences différentes de toutes les structures possibles.
Jean-Louis.
Oui, moi j'ai un peu la réponse tout à l'heure, comme je vous la pose au début, la question c'est de savoir si toute la production de l'entreprise, parce que c'est une entreprise complètement, si toute la production partait dans les AMAP et qu'on sort, si ça utilisait toute la production, ou s'il y avait du reste éventuellement.
Non, la MAP c'est tout nouveau, hein. On a fait deux distributions, non, c'est surtout les marchés, magasins à la ferme. Après, on aimerait fournir la restauration collective via l'association Manger Bio Limousin, qui est une structure qui regroupe des producteurs et qui, pour répondre aux appels d'offres des cantines scolaires, se regroupe pour avoir des prix plutôt intéressants et surtout de quoi fournir. Parce que voilà, y a pas mal de cantines qui font appel à nous pour fournir en direct. Mais c'est compliqué parce que c'est soit des énormes volumes d'un coup, et du coup c'est compliqué à fournir, soit des tout petits de temps en temps. Donc vaut mieux, je pense que c'est plus intéressant de faire une plateforme centralisée là-dessus. Quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus?
Non, que ce qui se développe aussi, c'est les magasins dans les centres-villes, les producteurs. Enfin, nous, en Charente, on a un exemple à Arvel avec la belle fermière. Ils ont doublé leur surface récemment parce que, bon, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Mais ça se développe un peu partout. Moi, je vois avec mes enfants, sur Pro, par exemple, dans le Béarn, il y en a.
Limoges, il y a le plus grand de France. C'est saveur fermière. Ça marche du tonnerre. Il y a 50 producteurs, etc.
Ah, oui,
bon, nous, on est arrivés, ils nous ont dit non, c'est complet.
Ah, eux, ils sont complets. Oui, non, mais après, je crois que c'est difficile d'y rentrer, effectivement. Mais c'est quelque chose qui se développe. Alors, moi, je sais que j'utilise exclusivement.
Oui, ça marche super bien. Mais là, il y a peu, ils ont refait appel à nous pour du légume, donc je pense qu'à terme on y sera, mais voilà, pour l'instant on s'en sort sans.
Jean-Michel, puis après on fait la pause.
Il vient de la poser, donc je m'approche.
D'accord.
Donc peut-être juste la question de Dominique tout à fait au début, conclure là-dessus sur comment vous. Enfin, je le rappelle, c'était comment en fait en gros diffuser plus largement, essayer de dépasser votre territoire.
Alors, en fait, je voulais aussi dire que là, je vous ai développé mon point de vue. On est 11 personnes, donc on a tous un avis différent. On n'est pas tous au PG, on n'a pas tous... et par rapport à la vitrine Facebook... etc.
Internet.
Surtout pas.
Non, on s'est dit qu'on communiquait pas, voire très peu, sur notre projet tant qu'on n'avait pas de résultats concrets. Donc, on a beaucoup de sollicitations de journalistes. On a eu M6 Paris Match, tout ce qu'il fallait, etc. Mais on n'a pas du tout envie de communiquer. Parce que voilà, si on se pète la gueule, c'est quand même pas très intelligent. Et c'est aussi une question qui fait assez débat au sein de notre collectif. Il y en a qui ont plus envie de communiquer que d'autres.